Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver à Canal Académie, à l'Institut de France, pour une nouvelle chronique économique, la première de l'année 2010, qui me donne le grand plaisir de recevoir deux experts de l'économie et de la finance, Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Dessertine, lui-même économiste, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe. Donc, nous avons arrêté le principe de nous retrouver une fois par mois pour traiter des grands sujets économiques et d'actualité ici à Canal Académie. Et je vous remercie d'avoir accepté ce principe. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler des moteurs de l'économie et de cette sortie de crise qu'on nous promet, je voudrais rappeler à nos auditeurs votre CV. Nicolas Bouzou, économiste, directeur de la Fondation d'Astérès, directeur des études au MBA de droit d'Assas et de management à l'Université de Paris de Dassas, chroniqueur, intervenant régulier sur plusieurs chaînes de télévision, les grandes, auteur à succès, l'un de vos ouvrages, Petit précis d'économie appliqué à l'usage du citoyen pragmatique, paru chez Erol, a reçu en 2008 le prix spécial Turgot, et vous avez fait paraître plus récemment le crack financier qui a particulièrement retenu l'attention. Philippe Dessertine, agrégé en sciences de gestion, professeur d'université à Nanterre, directeur du CEROS et de l'Institut de haute finance, l'IFI. Vous êtes vous-même chroniqueur et auteur et votre dernier ouvrage paru chez
Anne Carrière
en 2009, « Ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde » a reçu un accueil très promoteur. Vous venez par ailleurs de participer à la commission Juppé-Rocard sur le grand emprunt. Nous allons y revenir dans quelques instants. Vous êtes l'un et l'autre vice-président du Cercle Turgot, un think tank généraliste qui traite à la fois des problématiques économiques et financières, mais aussi des sujets de société. Et vous avez participé à la première publication du Cercle à travers « Repenser la planète finance, regard croisé sur la crise financière » paru chez Erol. Et vous serez aussi du deuxième ouvrage collectif qui paraîtra le 4 mars 2010, si mes informations sont bonnes, « La Chine-Amérique » avec un second titre très révélateur « Pourquoi et comment ?» La Chine et l'Amérique vont façonner le 21e siècle. Voilà donc pour la présentation. Sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Chacun espère que 2010 sera une année de sortie de crise et qu'avec elle, elle entraînera des éléments extrêmement bénéfiques. Alors, au plan macroéconomique, la première question est de savoir si ces moteurs de l'économie seront suffisants pour impacter les différents facteurs qui donnent souci, l'emploi, l'endettement, etc. Donc, on nous parle d'une croissance, bien entendu, des pays émergents, de la Chine en première ligne, et puis éventuellement de l'Amérique, la France, l'Europe, la vieille Europe, envisageant des niveaux de croissance de l'ordre de 1 à 1,5. Alors, quel est votre sentiment sur cet environnement nouveau de croissance retrouvée? Et pensez-vous que ce sera suffisant pour changer les paramètres les plus noirs? Nicolas Bouzou.
Il faut s'imaginer l'économie mondiale comme étant sous perfusion en réalité. C'est-à-dire qu'on est sorti de la récession, bien évidemment. On est sorti de la récession en 2009. Dans beaucoup de pays, on est sorti de la récession un peu plus tôt que prévu, dès le deuxième ou troisième trimestre 2009 en réalité. Mais on en est sorti essentiellement parce qu'on a mené des politiques économiques extrêmement volontaristes et au fond des politiques d'inspiration keynésienne qui visaient à relancer la demande alors que le secteur privé lui-même était à ce titre absent. Alors tout ceci est très bien, mais il faut s'imaginer l'économie mondiale comme étant encore sous perfusion avec, si je veux pousser un peu l'analogie médicale, une perfusion de dépenses publiques dans le bras droit et une perfusion de politique monétaire, c'est-à-dire, pour le dire un peu crûment, de taux d'intérêt à court terme extrêmement faible dans l'autre bras. La difficulté, c'est que si on continue d'administrer ces traitements à l'économie mondiale peut décéder non pas de sa maladie initiale, mais du traitement. Et c'est là toute la difficulté, c'est que très certainement 2010 va être très complexe dans la mesure où il faut commencer à se poser la question, au moins se poser la question, même si on ne le fait pas. La question suivante, quand et à quel rythme on commence à sortir de ces politiques économiques extrêmement expansionnistes qu'il fallait mener bien évidemment, mais maintenant il faut en sortir. Pour le dire clairement, à partir de quand on commence à réduire nos déficits publics et à partir de quand on commence à augmenter un petit peu les taux d'intérêt. Alors bien évidemment, l'horizon n'est pas celui du premier semestre, les situations économiques sont encore trop fragiles, mais au deuxième semestre, au second semestre, il faudra très certainement commencer à se poser ce type de questions, parce que sinon, on risque d'aller vers des effets secondaires de ces politiques keynésiennes, tout à fait inquiétants. Par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt de long terme. Il est clair que si on continue de voir nos dettes publiques augmenter à ce rythme-là, on va vers des augmentations de taux d'intérêt à long terme qui peuvent devenir difficilement contrôlables. Donc voilà, le problème est posé.
D'accord. Alors, promesse de croissance, mais promesse aussi de contrariété avec les taux d'intérêt. Je me tourne maintenant vers Philippe Dessertine. Alors, Nicolas Bouzou disait tout à l'heure que les pays étaient sous perfusion. C'est aussi le cas du leader de la croissance, semble-t-il, la Chine, dont on ne sait pas très bien quelle a été la dose homéopathique ou extrêmement forte qui leur a été injectée.
Je crois que oui, on sait quand même. On sait qu'il y a eu un plan de relance qui est probablement en pourcentage de PIB le plus fort de tous les pays émergents et non émergents, donc en Chine, pour redoper la croissance. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, ce début d'année 2010, nous avons bien un moment où le pire a été évité, où on a eu effectivement très très peur. Il faut se souvenir qu'il y a juste un an, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année 2009, on était peut-être encore pire qu'à la fin de l'année 2008. On était vraiment au fond du trou et on craignait vraiment que l'on aille vers une désagrégation systémique de l'économie mondiale. Donc le pire a été évité. En effet, je rejoins totalement Nicolas par les solutions de déficit, c'est-à-dire de dépenses publiques extrêmement fortes, d'injection d'argent public dans l'économie extrêmement forte, et d'autre part avec des politiques monétaires, essayant d'accentuer encore cet aspect-là, c'est-à-dire en rendant l'argent anormalement peu cher, ce qui permet évidemment à un certain nombre d'acteurs économiques, y compris l'État, de s'endetter pour à très très bas coût, et bien entendu de remettre cet argent à l'intérieur de la sphère économique. Donc on en est aujourd'hui là, on était à New York par exemple avec l'Institut de haute finance il y a quelques jours, et toutes les grandes banques d'affaires américaines partaient à peu près sur le même diagnostic en disant la croissance de la fin d'année 2009 n'était liée qu'au déficit public américain, c'est-à-dire sans déficit, on aurait été toujours en récession. Donc actuellement, nous sommes effectivement dans une croissance artificielle. Alors c'est un côté un peu paradoxal, et c'est vrai que là on peut utiliser un certain nombre d'images en disant il y a un côté euphorisant. En effet, la drogue qui est administrée à l'économie mondiale fait qu'autour de nous, on rencontre beaucoup de gens qui disent la crise est finie, tout va bien, ça y est, on est reparti. Et même parfois d'ailleurs, on est reparti dans des errements ou des modes de fonctionnement comme autrefois. Mais bien avoir conscience qu'on n'est pas reparti comme avant, parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, si on la lâche, elle s'effondre à nouveau. Elle est vraiment dans une situation qui est une situation tout à fait ambiguë, tout à fait artificielle. Alors, au premier rang, évidemment, de cette situation artificielle, on a la relance des pays émergents. La croissance est repartie très fortement dans les pays émergents, en particulier dans la zone Asie, et évidemment en Chine, où les derniers chiffres de croissance sont absolument extraordinaires.
Plus de 9% même,
ah,
on imagine.
On est parti, oui, même sur l'année 2010, avec des prévisions à deux chiffres, de croissance à deux chiffres. Donc, on est vraiment là dans une perspective qui est assez surprenante, parce que ce qui traîne cette croissance est toujours, aujourd'hui, les exportations. Donc, on voit là vraiment l'aspect artificiel qui, on va dire...
Ils n'ont pas encore changé de modèle.
Ils ne peuvent pas. Ils ont vu ce qui se passait. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont, dans l'année 2009, tenté de stimuler la dépense et la consommation intérieure, on s'est rendu compte que ça n'a pas suffi. Ce que l'on a vu simplement à la fin de l'année 2009 et au tout début de l'année 2010, c'est que la Chine, aujourd'hui, essaie de diversifier sa zone d'exportation. C'est-à-dire, on a annoncé, effectivement, la création d'un grand marché commun, ou en tout cas le lancement d'un marché commun asiatique qui n'est pas tout à fait les frontières de l'ASEAN, qui est plus restreint, mais simplement, évidemment, qui a pour objet de trouver des nouvelles portes d'exportation pour les produits chinois. Ce qui veut dire qu'on a toujours des fragilités là extrêmement fortes dans ces pays émergents liées à ce mode structurel de fonctionnement et de croissance. Aujourd'hui, en effet, on est vraiment dans une période où énormément d'interrogations sont encore en suspens.
Alors, quels sont les moteurs qui pourraient venir prendre le relais et donc monter en puissance, un moteur de l'investissement, de la consommation éventuellement, et quels sont ces moteurs que l'on voit se dessiner ou en tout cas que l'on espère voir redémarrer?
Alors, la consommation, certainement pas, parce qu'aujourd'hui, le niveau élevé des taux de chômage un peu partout dans les pays de l'OCDE rend difficile de mettre en marche ce relais de croissance. Mais je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à quel type de politique économique il va falloir mener en 2010, puisqu'on est à peu près d'accord avec Philippe sur le fait que les politiques de la demande ont été bonnes, qu'elles ont été très utiles, mais qu'elles ont aujourd'hui peut-être un petit peu fait leur temps et qu'il faut y substituer un certain nombre d'autres politiques et peut-être des politiques plus axées sur l'innovation, plus axées sur l'offre.
Nicolas, peut-être, quand on dit les politiques ont été bonnes, à mon avis, elles ont été bonnes pour enrayer la chute. Ouais. En revanche, on peut vraiment se poser des questions quand ces politiques, au fond, un peu entraînées par l'élan, auraient tendance à aller dans le sens attendu par les politiques et à essayer de ressusciter la croissance. Là, il y a peut-être une ambiguïté.
Bien sûr, je pense que c'est un classique. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'avantage des politiques keynésiennes pour faire vite de relance par la demande, c'est qu'elles sont efficaces tout de suite. Et en effet, elles ont été efficaces tout de suite. Je le disais, en réalité, avant la fin du premier semestre 2009, on a commencé à en voir les effets. Mais l'effet pervers, c'est que les hommes politiques, finalement, veulent en abuser. Et finalement, si je provoquais un peu Philippe de Sertine, je dirais que le grand emprunt à la française, c'était un peu aussi sans doute cette tentative de vouloir prolonger quelque part le plan de relance. Mais pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, bien sûr,
justement,
aucun doute là-dessus, mais bien entendu. Mais donc, je pense qu'on est d'accord sur l'idée qu'il faut encore des politiques économiques pour soutenir la croissance, mais des politiques économiques qui soient moins coûteuses que celles que l'on a menées en 2009. Et là, je pense qu'on a une grande réflexion à avoir sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat en France, on en a, on a beaucoup d'entreprises, mais sur la façon dont on peut essayer de pousser ces entreprises, de les faire grandir pour qu'elles embauchent à nouveau, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, c'est-à-dire essayer d'aider aujourd'hui des entreprises qui sont de petites entreprises, qui ont 50, 100 salariés, à passer le cap des 200, des 250 salariés. Donc, on voit à peu près quel type de politique il faut mener, politique d'allègement des seuils sociaux, des seuils fiscaux, développement du capital investissement dans un certain nombre de territoires. Bon, donc, je dirais que les outils intellectuels sont là. On a une grande difficulté, c'est la façon dont les hommes politiques et le gouvernement vont pouvoir s'emparer de ces politiques, dans la mesure où les conséquences des politiques keynésiennes étaient très spectaculaires. Maintenant, il faut adopter des politiques qui sont moins spectaculaires et qui, d'ailleurs, souvent, doivent être menées au niveau local. Donc, tout ceci est très compliqué, mais à mon avis, on ne peut pas continuer de mener des politiques de fuite en avant, de dépenses. Et de la même façon, d'ailleurs, je pense qu'il va falloir commencer à se poser très sérieusement la question d'une remontée des taux d'intérêt. Là encore, pas tout de suite, mais d'ici la fin de l'année, la question ne doit pas être taboue. Et à mon avis, le système financier ne se l'est pas encore suffisamment posé. Et là, c'est aux banques centrales d'envoyer ce type de message.
Les Chinois ont déjà lancé cette...
La croissance est très forte.
Ça ne veut pas dire grand-chose en Chine, avec l'évolution de la monnaie. Non, je crois qu'il y a un moteur immédiat, mais qui va être extrêmement relatif, c'est qu'il y a eu un tel arrêt d'investissement dans les entreprises qu'il y aura une reprise, et il y a déjà un peu une reprise d'investissement, on va dire pratiquement structurelle, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment sans investir. Mais cela étant, il est évident que ce moteur est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible pour pouvoir essayer d'espérer bâtir une croissance sur cet aspect-là. Je crois qu'en effet, la consommation dans les pays développés risque d'être extrêmement décevante. On l'a vu déjà d'ailleurs à la fin de l'année, évidemment avec le niveau de chômage qui joue énormément. On a l'espoir sur la consommation des pays émergents, mais là, c'est vraiment un espoir qui, de toute façon, est à long terme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout du bout, finalement, on ne trouve pas beaucoup de moteurs potentiels. C'est ça, justement, la perspective de croissance très, très molle. C'est en disant comment on va faire pour vendre quand on est une entreprise demain. Là, il y a vraiment une question. Alors, sur les taux d'intérêt, mais entièrement d'accord. Je crois que la Fed avait dit dans le conseil de Fed du début de l'hiver qu'on n'envisageait pas de remonter des taux avant la fin de l'année 2010. En réalité, donc nous, à New York, déjà l'autre jour, on nous disait, de toute façon, ça ne sera sûrement pas tenu comme calendrier. D'ores et déjà, on est dans une perspective de remonter des taux plutôt à mi-année.
C'est ça.
Et là, quand il va falloir remonter les taux, on ne peut pas rester avec des taux artificiels extrêmement bas, c'est-à-dire on emprunte. Vous voyez l'idée, on a la capacité d'acheter de l'argent pour rien, pour l'injecter et pour essayer de nourrir de la croissance, alors que derrière, on ne crée pas de richesse. On ne peut pas créer de l'argent sans créer de richesse. Ou alors, effectivement, on va rentrer dans une phase inflationniste extrêmement dangereuse. Donc, il y a un moment donné où il va falloir remonter les taux. Et là, il y aura des secousses sur les marchés financiers, ça fait aucun doute.
D'accord. Donc, on sort de façon artificielle de la crise pour l'instant. Et on espère que les moteurs de croissance, investissement notamment, viennent progressivement prennent le relais. Mais en tout cas, on est placé aujourd'hui devant des incertitudes
fortes. Alors, ce que je veux dire quand même, parce que là, on dresse un tableau qui est noir, qui à mon avis est lucide, mais qui est quand même assez noir. Je veux dire que la période actuelle est quand même une période particulière dans la mesure où c'est une période de très forte innovation technologique. Et on peut très certainement surfer un peu sur cette vague. Et à ce titre, c'est très différent des années 30, par exemple. Mais aujourd'hui, si vous regardez le domaine médical, si vous regardez le domaine des technologies de l'information, l'information, le domaine de l'agroalimentaire, le domaine du numérique, bien évidemment, de la culture, de la dématérialisation de la culture. Bon, vous avez vraiment tout un ensemble de secteurs dans lesquels vous avez des potentialités en termes d'innovation qui sont très importantes. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'un certain nombre de ces innovations qui ont émergé il y a maintenant entre 5 et 10 ans vont assez rapidement arriver à maturité et générer une croissance économique relativement forte. Alors, ce ne sera pas vrai pour 2010, hein, bien entendu. Là, en 2010, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on aura une croissance très faible. Mais on a quand même cet appel d'air technologique qui peut nous emmener sur une croissance un petit peu plus forte à partir de 2012-2013. Donc, rien n'est perdu, mais il est clair qu'il ne faut pas se faire plaisir et surtout ne pas parler de reprise, parce que derrière le terme de reprise, qui à mon avis est un contresens, quand on parle de reprise, il y a, me semble-t-il, idée de rebond assez fort et de pérennité. Or, aujourd'hui, aucune de ces deux conditions n'est là.
On n'est pas dans un modèle en V.
Non.
Bon. Alors, c'est le terme de racine carrée en ce moment.
Voilà. Oui, d'accord, c'est ça, racine carrée. Alors, en parlant de racine carrée, parlons du grand emprunt, oui, puisque je vous ai vu légèrement prendre le contre-pied d'une affirmation de Nicolas Bouzou. Vous qui étiez donc membre de cette commission du grand emprunt, finalement, on est revenu à des niveaux de l'ordre de 30 milliards, si mes souvenirs sont bons.
Oui, on est revenu, on est allé
à 30 milliards. Donc, on aimerait bien vous entendre sur ce point.
Il y a plusieurs commentaires. Bon, d'abord, on va le voir, l'idée du grand emprunt est absolument dans la suite de ce que vient d'évoquer Nicolas. Hein, c'est-à-dire, l'idée du grand emprunt, c'était de dire, nous avons une opportunité, probablement historique parce qu'elle ne se reproduira pas avant très longtemps, de permettre à l'État d'investir et de jouer le rôle de booster dans un certain nombre d'éléments, justement, de croissance future. C'est-à-dire, l'idée, c'est, au fond, quand on regarde la situation économique actuelle, de dire le modèle économique, mais peut-être même le modèle de consommation occidentale aujourd'hui, est arrivé à son extrémité. Que, finalement, cette crise est une crise extrêmement structurelle qui va bien au-delà des questions monétaires ou questions financières et qu'il va falloir trouver des solutions à très long terme pour pouvoir arriver à inventer quelque chose dans lequel l'économie pourrait se retrouver de manière beaucoup plus stable.
Donc, et ça, c'est le fil d'Ariane du grand emprunt. La philosophie du
c'était grand emprunt. En tout cas la feuille de route qui a été donnée et ça a été celle qui a été respectée au-delà même peut-être de ce qui était attendu. C'est-à-dire, en clair, notre idée dans la commission du grand emprunt, c'est de dire, au fond, nous allons prendre ce qui pourrait être de la capacité de déficit de la France. Et quand on dit déficit, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment d'entrées pour payer les dépenses. On va prendre de cette capacité et au fond obliger évidemment le gouvernement ensuite à être dans une politique de restriction de ses dépenses, double restriction puisqu'il aura moins de recettes et qu'on en aura pris par le grand emprunt, eh bien cet élément que l'on aura pris, le transformer en investissement. Et donc ça, je crois vraiment, c'est l'idée extrêmement importante qui était à la base du grand emprunt, qui fait qu'on ne peut pas considérer que c'est un accroissement du déficit comme lorsque l'on va avoir des accroissements de dépenses public dans d'autres domaines. Et d'ailleurs, l'ensemble des ministères ont souvent sollicité du pied la commission et les deux présidents de la commission, les deux anciens premiers ministres Alain Juppé et Michel Rocard, en disant « aidez-nous, par exemple, à financer des dépenses ». C'est ce qui a été sans arrêt refusé en disant « on est dans une perspective d'investissement à long terme ». Donc ça veut dire, en effet, que là, on a considéré que probablement l'État français n'aura pas la possibilité pendant longtemps de lever autant d'argent pour essayer d'investir dans le futur, et là, pour le coup, de se positionner dans ce qui doit être la révolution dans le système économique européen, français. Alors, ça aurait été mieux, bien entendu, si ça avait été au stade européen, mais en tout cas français, pour essayer de se positionner pour les 10, 15, 20 ans à venir. Et donc, c'est une ambition forte, et je crois que par rapport à ce que l'on a proposé comme projet, on est à peu près conforme à cette ambition. Alors, après 35 milliards, il faut bien quand même être d'accord, c'est 10 porte-avions nucléaires. Vous avez 10 porte-avions nucléaires qui attendent dans la Seine. On en a construit un, on a les pires difficultés à en construire un deuxième. Donc après, on a dit, ah oui, on voulait 100 milliards, etc. Alors, c'était un petit emprunt. 35 milliards, c'est pas un petit emprunt, c'est énorme. Aujourd'hui, je crois que bon, les notions de grands chiffres ont été un peu perdues, mais on est quand même dans des sommes qui sont extrêmement conséquentes.
D'accord, donc c'est un chemin vertueux et exemplaire, c'est un petit peu ce que l'on voulait dire, je pense, au niveau du gouvernement et au plus haut sommet de l'État. Puisqu'on est donc en France, un mot sur l'emploi, parce qu'en définitive, on dit la croissance elle va être faible, etc. Donc on sait qu'il faut un certain niveau de croissance pour pouvoir impacter l'emploi. C'est quand même un grand sujet de préoccupation à court terme.
En réalité, on n'a pas besoin en France d'énormément de croissance pour faire baisser le taux de chômage, mais enfin, il faut quand même une croissance qui approche 1,5% par an. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas. On a un taux de chômage qui est pas loin de 10% de la population active en réalité. Et le plus probable, c'est que dans l'état actuel des choses, on resterait autour de ce taux de chômage pendant la plus grande partie de 2010. Alors là, il y a une vraie question finalement qu'on pose assez peu, parce qu'on revient sur des niveaux de chômage de masse comme on en connaissait avant la décrue des années 2000, sachant que quand vous avez un taux de chômage de 10% au niveau de la France métropolitaine, ça veut dire que dans certaines villes comme Marseille, vous avez 20%, et ça veut dire que dans le quartier du Panier à Marseille, vous avez 30 ou 35%. Donc vous avez quand même des situations sociales qui sont extrêmement compliquées.
Et idem pour les catégories aussi, puisque pour les jeunes,
les femmes, etc. Bien entendu. La croissance ne se décrète pas, bien évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'on aura assez peu de croissance en 2010. Donc je crois qu'il va falloir réfléchir à la façon dont on essaie de contenir l'augmentation de ce taux de chômage, voire à la façon dont on essaie de faire baisser ce taux de chômage avec une croissance qui reste faible. Et là, ça va nous ramener, je pense, à des débats qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais à des débats sur la baisse des charges sociales. Alors pas sur les bas salaires, puisqu'il y en a déjà quasiment plus sur les bas salaires, mais peut-être sur des salaires un peu plus importants, ou la baisse des charges patronales, en tout cas. L'idée d'emploi aidé, très certainement, va aussi être réactivée, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que des emplois aidés, bien évidemment, on en a besoin, mais on sait qu'en France, on a peut-être tendance à en faire parfois trop. Et puis, il y a aussi une notion dont on devra parler, c'est la notion de formation. Et là, à mon avis, bon, un mal pour un bien. On a un taux de chômage élevé, essayons d'en profiter pour faire un peu la clarté sur notre système de formation, et en particulier de formation continue. C'est quand même un bon système de formation continue, c'est un bon moyen de ramener les gens vers le travail. Et il y a quand même en France des entreprises qui recrutent, moi j'en vois tous les jours, je vois aussi des secteurs qui fonctionnent bien, donc on a encore en France des entreprises qui seraient prêtes à créer des emplois, encore faut-il qu'elles trouvent des salariés bien formés. Ça, c'est le rôle de la formation continue, qui, alors, je le dis un peu brutalement, mais qui coûte quand même cher en France, autant. Et la commission du Grand Emprunt a bien travaillé à ce niveau-là. On sait que l'université n'a pas assez de moyens en France. Autant la formation continue a des moyens, mais des moyens qui ne sont très certainement pas utilisés de façon assez efficace. Et là, on a un véritable levier.
Ouais, donc le message que vous donnez, c'est d'investir par la formation. C'est un investissement.
Oui, parce qu'en France, on a du retard sur ce sujet. Il y a des sujets sur lesquels on est devenu relativement bon. Le marché du travail en France est devenu relativement flexible, en tout cas plus qu'avant. Sur la formation, on n'est pas encore bon.
La question de l'emploi, à mon avis, est vraiment une question. La question absolument centrale, d'ailleurs, là, nos auditeurs ne sont pas uniquement qu'en France. Et c'est
bien
vrai
sûr,
que c'est dans le monde
entier
qu'on a ce problème. Les États-Unis sont confrontés à un problème absolument majeur en ce qui les concerne, puisqu'on évoque 10% aussi chez eux, mais très probablement des niveaux réels, puisque les statistiques américaines peuvent être vraiment remises en question de ce point de vue. Ils sont beaucoup, beaucoup plus importants, qui seraient au-dessus de 15% de la population active. Donc là, on est dans des niveaux de chômage, effectivement, qui deviennent quasiment critiques. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a peu d'espoir d'avoir une vraie décrue du chômage dans tous les grands pays industrialisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie question, ça va être de composer avec des niveaux de chômage élevés. Voyons, on peut faire toutes les promesses que l'on veut. On n'est pas ici, nous, dans une approche politique en disant « vous inquiétez pas, on va réduire le chômage quand on va revenir au pouvoir ». Ce n'est pas vrai. Tous les gens qui disent ça aujourd'hui savent très bien que ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au contraire, l'idée des sociétés occidentales va être de vivre avec ces niveaux de chômage élevés. Et donc concrètement, si vous avez un très gros déficit, des niveaux de chômage très élevés, eh bien ça veut dire des prélèvements pour tous les actifs qui vont être de plus en plus lourds. Parce que ça, va falloir le payer. Il va falloir payer, entre guillemets, une paix sociale, ou en tout cas le fait qu'on ne dérape pas du point de vue des grandes sociétés avec des oppositions qui deviendraient des oppositions frontales, sociales, dramatiques.
Donc de type
émeute, insurrection et de choses comme ça, dont par exemple aux États-Unis, pour ne pas prendre le cas français, mais dont on parle de plus en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à ça, eh bien il faut évidemment des dépenses publiques vis-à-vis de la population touchée par le chômage, qui sont lourdes. Et ces dépenses publiques, on y revient toujours, il faut les financer. Et donc, évidemment, pour les financer, ce sont des prélèvements très lourds pour l'ensemble de la population active et pour les agents économiques dans leur ensemble.
Prélèvements très lourds ou transferts? Mais transfert à partir d'où et de qui?
De transfert, oui, ça...
ça va être un des grands débats. C'est donc un des grands débats, mais que nous verrons peut-être dans une prochaine émission, l'émission peut-être du mois prochain, qui est le grand rendez-vous français donc, de 2010, c'est les retraites. Là, effectivement, on va focaliser sur l'ensemble des problématiques que nous venons de voir. Alors, on a vu le monde, on a vu un petit peu du problème français. Je voudrais qu'on termine sur l'Europe. Il y a plusieurs aspects, bien sûr, sur l'Europe, mais il y en a un au moins qui me paraît brûlant, c'est celui de l'euro. Est-ce que l'euro va résister aux tensions qui commencent à se manifester, en particulier sur certains pays, sur les décalages entre les situations économiques et sur le prix payé par les États qui sont en décalage? Est-ce que c'est le début de la fin de l'euro, ou l'euro est au contraire un moyen de protéger la zone, la vieille Europe? C'est Nicolas.
C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que l'euro, forcément, nous a un peu protégés dans la période récente, dans la mesure où si on n'avait pas eu l'euro, on sait parfaitement ce qui se serait passé. Un certain nombre de pays européens auraient dévalué leur monnaie et on aurait eu une course à la dévaluation qui, finalement, se serait avérée être un jeu à somme négative. Donc, de ce point de vue-là, l'euro a plutôt été protecteur. Cela dit, la question que vous posez, Jean-Louis, qui est de savoir si l'euro pourra résister à tous les événements qui peuvent se passer ces prochaines années, et notamment, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, l'événement auquel on pense, c'est une crise de la dette souveraine dans un des pays de la zone euro, et on fait allusion à la Grèce. En réalité, on a vu qu'il y avait des tensions aujourd'hui sur les finances publiques grecques, et surtout, on voit qu'on a des écarts de taux d'intérêt sur les dettes de la zone euro qui sont de plus en plus élevés. Ça signifie que les marchés financiers considèrent aujourd'hui que les pays de la zone euro ont un risque souverain qui n'est pas le même. Ils considèrent que la Grèce ou l'Espagne présentent un risque qui est plus important que l'Allemagne ou même que la France. Est-ce que l'euro peut survivre à ça? Très honnêtement, c'était bizarre, je n'en sais rien. En tout cas, et c'est peut-être déjà une façon d'y répondre,
oui, c'est une grande interrogation.
Je trouve que la question se pose, alors que bien évidemment, je ne me la serais pas posée il y a 18 mois.
De même, simplement pour faire la transition, de même que la question implicite, c'est est-ce qu'un État peut faire faillite?
Oui.
Non, enfin, après, on a déjà eu des cas de défaut, si vous voulez. Un État peut faire défaut sur sa dette, mais qu'il fasse faillite, c'est-à-dire qu'un État, d'un jour à l'autre, je ne rembourse plus mes dettes, paraît.
L'Islande est déjà très vrai, quand même. Enfin,
oui, mais on a quand même des garde-fous, on a le FMI, et puis au pire des pires, on peut toujours imaginer ce qu'on appelle une monétisation de la dette, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale rachète des obligations des pays en question.
Non, mais là, je crois qu'aussi, il faut être très clair, la fin de l'euro, ça n'est pas possible aujourd'hui, enfin, où ce serait un chaos du point de vue monétaire international qui serait absolument abominable. Enfin, même la régression pour tous les pays de la zone serait absolument terrible. Techniquement, ce serait quelque chose d'une complexité inouï à gérer, puis surtout il y aurait un effet là de tsunami. Là, véritablement, malheureusement, on est dans une période où nous avons de terribles cataclysmes naturels, mais là on aurait vraiment une onde qui se déplacerait sur la totalité de l'économie mondiale qui serait terrible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crises qu'on est en train d'évoquer, et bien entendu celles que pose la Grèce aujourd'hui, puisque la question de la dette de la Grèce est toujours une question absolument brûlante, mais ça n'est que le début, puisqu'on aura probablement la même question et sur le Portugal, et sur l'Espagne, et sans doute sur l'Italie. Ces crises-là vont devoir être résolues par la zone euro.
De façon collective.
Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, quand on dit est-ce que l'euro doit vivre, etc., bah, il va vivre, pourvu que, évidemment, ceux qui, on va dire, supportent la monnaie unique, acceptent aussi d'en assumer maintenant des conséquences qui vont être très lourdes et qui vont être, bien entendu, très compliquées à gérer politiquement. Ça veut dire, en clair, que si l'Allemagne et la France doivent décider, on va dire, de gérer un moratoire des dettes de tous ces pays, eh bien, ça va coûter très cher aux grands pays européens. Et là, évidemment, il y a des grandes questions qui vont se poser par rapport aux équilibres, qui vont se poser par rapport à la gestion de l'Europe, à la gestion économique de l'Europe, et donc qui vont être des questions absolument fondamentales. Et là, bien entendu, il faudra à un moment donné aussi poser le problème britannique, hein, qui risque d'être en même temps un handicap, et en même temps, je dirais, quelque chose sur lequel il faudra travailler de manière simultanée. Donc, c'est vraiment un chantier très complexe qui s'annonce, mais un chantier sur lequel, à mon sens, il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas de questions à poser. Il faut trouver une solution.
D'accord. Tout à fait. Mais alors évidemment, il y a des questions intrinsèques à l'Europe, mais il y a aussi des questions en valeur relative, c'est-à-dire par rapport aux autres monnaies, par rapport au yuan et par rapport au dollar. Et là, effectivement, c'est aussi des facteurs qui vont peser plus ou moins selon ce que l'on peut envisager comme évolution. Alors, d'un mot simplement, parce que je crois qu'il faut que l'on termine, sur ces aspects des rapports des monnaies, du dumping, etc., du yuan qui est accolé au dollar, vous voyez des changements possibles ou les Chinois disent qu'ils vont légèrement remonter
Mais ils remontent déjà légèrement, mais très légèrement. Et en réalité, on joue un peu avec le feu, me semble-t-il, avec cette question du taux de change, qui est une question primordiale. Quand on manipule un taux de change, l'effet économique, il est équivalent à celui d'une mesure protectionniste. Donc on joue un peu avec le feu. Ce qu'on peut observer, c'est le fait qu'aujourd'hui, la zone qui est la plus pénalisée est la zone euro, très certainement, pour une raison que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'on n'a pas la politique économique, en réalité, de la zone euro. Et tant que les Américains mèneront une politique relativement plus inflationniste, une politique monétaire relativement plus inflationniste que la politique monétaire de la zone euro, on aura une dépréciation du dollar. Et comme le yuan est accroché au dollar, l'euro s'apprécie par rapport à toutes les monnaies.
Tout à fait.
Voilà l'équation rapidement posée.
Non, je crois que, l'euro, par sa stabilité dans les dernières années, a joué une sorte de rôle de quille un peu du système monétaire international qui a permis notamment aux États-Unis d'avoir une politique monétaire beaucoup plus laxiste. Je crois qu'aujourd'hui que l'euro va être en difficulté, ça va poser globalement le problème, notamment aux Américains et notamment aux Chinois, de dire qu'il va vraiment falloir mettre à plat la problématique monétaire internationale. On ne peut pas rester avec un système où un certain nombre d'aberrations sont voulues par, je dirais, certaines parties, en particulier les États-Unis et la Chine, et d'autres, aujourd'hui, vont être obligées de gérer des difficultés majeures comme l'euro. Donc, il y a un moment donné où cette question monétaire va devenir probablement le cœur, le centre des prochains G20.
Voilà, donc on va terminer sur cette bonne parole, les aspects monétaires, le cœur, le centre. On ne peut pas passer en revue tous les sujets. Je vous propose que de la prochaine émission, nous soyons un peu plus franco-français et que nous traitions en particulier le problème des retraites et puis peut-être aussi les banques, dont on a pour une fois pas trop parlé, mais on peut aussi s'en réjouir. Merci à Nicolas Bouzou, merci à Philippe Dessartine, merci. Et donc au mois prochain. Merci à vous.